Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Une des choses que la pandémie a mis à jour, c'est la défaillance de notre système de santé. En particulier, un problème de nombre de soignants, un problème de charge des personnels de santé. Et aujourd'hui, je reçois Jean-Charles Samuenian, qui est le fondateur de Alan. Et avec lui, on va parler justement de comment on pourrait améliorer notre système de santé pour répondre aux problématiques d'aujourd'hui. En particulier, je pense aux soins psychologique et à la santé mentale, puisque ça va être un sujet majeur, et c'est déjà un sujet majeur, mais ça va l'être encore plus dans les années à venir. On va parler des maladies chroniques aussi, parce que c'est un sujet extrêmement important. On va parler des données personnelles, parce que nécessairement, les acteurs comme Google, Facebook et autres se positionnent aussi sur la santé. Et donc, c'est nécessaire, indispensable que des acteurs européens ou l'État, tout simplement, se positionnent également dessus. Donc, une conversation qui est extrêmement importante, parce que, en fait, ça va quelque part dessiner notre vie dans les années à venir. Je vous laisse écouter cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, Charles.
Bonjour, Greg.
Comment tu vas aujourd'hui?
Très, très bien.
Nickel. Cette question, elle est anodine et en même temps, elle est essentielle. Bon, souvent, on ne dit pas forcément la vérité parce que la réponse serait beaucoup plus longue. Mais on va parler du système de santé. En France, on est particulièrement fiers de notre système de santé. On est très contents parce qu'on dit que c'est le meilleur système de santé au monde. Je pense que la première question, c'est est-ce que c'est toujours le cas? Et la seconde, c'est si ce n'est pas le cas, comment on fait pour y revenir ou comment on peut améliorer le système?
Alors, le premier élément de réponse, c'est que ce n'est plus vraiment le cas et que on a un peu vécu dans cette illusion de on a le meilleur système de santé, donc on n'a pas besoin de le réformer. Ce qui se passe, c'est que les Français commencent à le voir, surtout après 2 ans de pandémie. Donc il y a quelques stats, mais c'est plus de 80% des Français qui veulent améliorer le système de santé. C'est 7 soignants sur 10 qui sont en situation d'épuisement professionnel en 2021. Donc, en fait, on voit qu'on arrive au point de rupture où les citoyens sont de plus en plus déçus du système, voudraient l'améliorer, voudraient que les politiques en parlent plus. Il y a 40% des Français qui ont fait un renoncement à un soin, pas nécessairement pour des raisons monétaires, mais aussi pour des raisons d'accès aux soins, de déserts médicaux qui sont en constante augmentation. Et en plus, il y a les professionnels de santé de tous les niveaux, que ce soit les médecins, les infirmiers, les aidants, qui sont à bout de souffle pour plein de raisons structurelles, qui sont encore une fois les déserts médicaux, les pics aux urgences, etc. Et du coup, on est à un point de rupture où on a eu soit 60 ans de fordisme, taylorisme de la santé avec une industrialisation, la création de grands centres hospitaliers. Et ça avait beaucoup de sens de faire ça dans les 30 glorieuses et post-seconde guerre mondiale pour créer une machine, mais on a perdu la relation personnelle qu'on pouvait avoir avec la santé. On se retrouve un peu un patient caché derrière une maladie et le système se concentre sur la maladie. Et je pense qu'aujourd'hui, la technologie doit nous permettre que les attentes des citoyens sont autour du care dont on parlait juste avant, sont autour de avoir un système de santé qui soit centré sur eux et pas centré sur le système. Et si on ne le fait pas, en fait, on va arriver à une détérioration à la fois de la qualité pour les professionnels de santé et pour les citoyens. Donc, on est vraiment au moment, après ces 2 ans de pandémie, où il ne faut pas lâcher la balle, quoi. Et c'est le moment où il faut innover, réformer pour préparer les 10 ou 20 prochaines années. Parce que l'innovation en santé, il n'y a pas de baguette magique. Ça va être la somme de plein de petites choses qui viennent des professionnels de santé, de la puissance publique, des entreprises privées et l'innovation. Et moi, ma thèse, c'est qu'il faut une plateforme forte créée par l'État et un écosystème, un terreau fertile d'innovation pour pouvoir innover partout en santé et en prévention.
Mais quand on dit c'est plus le meilleur système de santé, en France, on a quand même cette chance de ne pas payer, ce qui est quand même assez unique. Je pense qu'en fait, on ne s'en rend même plus compte. Mais la réalité, c'est quand même que dans beaucoup de pays, je pense à l'Angleterre ou je pense aux États-Unis, mais je ne connais pas tout le système de santé, mais c'est vrai que c'est hyper cher. Tu parlais du Covid, les tests dans plein de pays ont été payants. C'est très, 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 très difficile. Et en même temps, ce que tu décris, c'est marrant. J'ai fait un parallèle dans ma tête, tu me diras ce que tu en penses, mais sur le système centralisé, etc., etc., ça m'a fait beaucoup penser au réseau d'énergie en France. C'est-à-dire, on a créé des centrales, qui n'est pas le meilleur système, mais qui, post-Seconde Guerre mondiale, était sans doute la meilleure décision à prendre, de mettre des centrales nucléaires, etc. Et maintenant, on se rend compte que, évidemment, idéalement, il vaut mieux des petits réseaux qui sont, qui peuvent s'adapter en fonction des besoins des villes, etc., etc.
Il y a plein d'éléments de niveau de réponse dans ta question qui sont très intéressants et je pense que là, en effet, la comparaison fait du sens. Il y a un point sur la gratuité des soins qui est un peu aussi une illusion. Enfin, on dépense 11 à 12% de notre PIB dans la santé, c'est 300 milliards par an et cet argent, il est pris quelque part. C'est juste qu'il est pris via les impôts, via les charges salariales et patronales, etc.
Mais au moins, il y a une redistribution.
Mais il est redistribué et je pense que ça, c'est un truc qu'il faut surtout pas lâcher, c'est les valeurs fondamentales de solidarité, redistribution, de pas de sélection médicale pour avoir le droit d'être couvert, de pas utiliser l'historique médical pour tarifer les soins et l'accès aux soins. Ça, c'est ultra important et je pense pas qu'il faille changer de ces valeurs qui font la force, je pense, de la France et de quelques autres pays européens. En revanche, on dépense que 2% en prévention, alors qu'on a une hausse constante des maladies chroniques et des affections de longue durée en France. Donc, c'est le diabète, c'est tout type de maladies chroniques. Et si on continue comme ça, avec une balance des âges qui fait que la population est vieillissante en plus, si on n'arrive pas à créer des outils qui nous permettent de gérer avec beaucoup plus de prévention, avec un suivi plus continu, la santé des gens, de ceux qu'ils veulent, mais le rendre ça très facile. Mmh. En fait, on va déséquilibrer le système et on va aller vers un effondrement parce que si on a deux fois plus de personnes en affection longue durée ou deux fois plus de maladies chroniques, il va falloir plus financer 300 milliards, il va falloir financer 600 milliards. Et en fait, c'est une hausse partout et qu'il n'y ait pas un dollar. Quoi.
Et on parlait tout à l'heure de care, donc de soins. Il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je pense qu'il intéresse n'importe qui s'intéresse. je pense qu'il intéresse tout le monde, en fait, parce que c'est autant au niveau individuel qu'au niveau collectif. C'est la santé mentale. Il y a énormément d'études qui montrent qu'il y a un énorme problème. Il y a pas mal de personnes qui parlent d'une pandémie de santé mentale qui arrive et en décalage, en fait, ce qu'ils expliquent en général, c'est qu'il y a un petit décalage entre le choc émotionnel et les problématiques de santé mentale. Donc c'est, pour les personnes qui nous écoutent peut-être, des problématiques de sommeil, un peu plus de stress. Mais en fait, ça vient et on le ressent. Et ça va faire pas mal d'impact. Alors parce que la santé mentale, c'est pas que des psychologues, ça peut pas être que des anxiolytiques non plus. Comment on peut gérer cette nouvelle pandémie qui est, en fait, qu'on connaît, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle est quasiment déjà là, en réalité.
Clairement, elle est déjà là. Je pense qu'il y avait une trame de fond pré-pandémie, en fait, de l'augmentation constante des sujets de santé mentale, de bien-être mental. Moi, j'aime bien aussi parler de fitness mental. C'est comment, en fait, on se maintient en forme mentalement et physiquement pour être au meilleur de soi. Et que la pandémie Covid a accéléré très fortement. Et on est en train de commencer à en voir les fruits. Alors, avec Alan, on a fait une étude là, récemment, avec un institut de sondage sur plusieurs milliers de personnes, donc c'est assez représentatif. Et en effet, il y a plus d'un salarié sur deux, enfin, c'est un salarié sur deux qui se disent en difficulté psychologique. Or, c'est isolement lié au télétravail, effacement des frontières entre vie professionnelle et vie personnelle, comment se réapproprier son métier dans un monde qui change, comment réagir quant à la guerre aux portes de l'Europe et comment ça t'affecte. Et ça se traduit par plein de choses. Il y a je crois que dans, par exemple, dans l'hôtellerie, la restauration, c'est 75% des salariés qui se posent la question de tout plaquer. Donc, tu vois, on est à un point qui commence et dans le commerce. Donc, c'est assez important. Et il y a un vrai rôle de transformation à jouer. Et là, c'est un sujet qui nous tient très fort à cœur avec Alan. Et on vient de lancer Alan Mind, qui est notre outil de santé mentale et de bien-être mental, sans en faire la pub, mais c'est pour donner les enjeux technologiques qui sont derrière. Il y a une opportunité unique de combiner technologie, contenu, personnalisation pour faire un accompagnement quotidien et qui prépare l'accès à des thérapeutes ou des psychiatres plus tard. Et donc, ce que tu peux faire, c'est créer des programmes qui se personnalisent, qui vont te présenter, si tu as un syndrome de l'imposteur, qui vont te présenter mon contenu autour du syndrome de l'imposteur, des programmes avec des gens comme toi qui peuvent te connecter à des communautés de personnes qui ont les mêmes problèmes que toi. Dans Alan Mind, tu peux te chatter ou faire de la visio avec des thérapeutes si nécessaire. Il y a aussi des fonctionnalités que moi j'adore qui viennent de la thérapie cognitivo-comportementale autour du journaling, qui est un outil qui est très puissant pour changer les comportements. Et en fait, je décris ça parce que c'est la combinaison parfaite entre technologie au service de l'humain. Donc, ces outils technologiques et du très bon produit vont me permettre, à très faible coût, entre guillemets, pour le système, de créer des programmes qui se personnalisent pour moi, pour m'aider dans ma santé mentale, comment gérer mon anxiété face à la guerre, comment gérer mon anxiété face au Covid, des programmes sur le sommeil, des exercices de respiration, etc., avec de la qualité scientifique derrière en plus pour m'accompagner. Et si j'ai besoin d'aller à l'étape d'après, avoir dans ma poche l'accès à une équipe de thérapeutes qui, si je le veux, peuvent avoir accès à tout mon historique de données, peuvent aussi me créer des programmes sur mesure entre les différentes séances. Là, tu crées un nouveau système de santé où le temps des thérapeutes est beaucoup mieux valorisé, plus efficace, où tu as beaucoup plus de prévention en amont, parce qu'en fait, on s'aperçoit, et nous, dans notre recherche utilisateur, on a vu que la santé mentale, même si c'est de plus en plus un sujet, reste un tabou, où les gens ont peur d'en parler dans l'entreprise, ont peur d'en parler à leurs proches, où le pas d'aller voir un thérapeute est en fait très grand, donc parce que c'est déjà mettre le doigt sur j'ai un problème, même si en fait c'est pas nécessairement un problème, c'est juste très, très normalisé, mais les gens peuvent le percevoir comme ça. Alors que si tu mets une étape intermédiaire, une marche de l'escalier qui est un peu plus basse, qui est des programmes de contenu que je peux faire tout seul et qui même, un, qui me font progresser, et nous les chiffres sont assez hallucinants sur 90% des gens qui utilisent disent que ça réduit leur anxiété, etc., mais, et qui t'amènent derrière à une seconde étape de je parle à un thérapeute au bon moment, mais en fait je me suis préparé mentalement pour le faire, ça c'est très puissant et c'est très représentatif sur ce qu'on peut faire sur le système de santé à l'échelle en prévention. Je trouve que la santé mentale est le parfait exemple, mais tu peux créer des programmes autour du sommeil, tu peux créer des programmes autour de la nutrition, tu peux créer des programmes autour de la gestion du diabète, tu peux créer des programmes de prévention sur le dentaire, enfin tu peux créer beaucoup beaucoup de choses qui te permettent de faire que la technologie soit ce suivi continu, que le machine learning ou l'intelligence artificielle puisse donner des outils aux professionnels de santé pour être de plus en plus efficaces aussi, donc de répondre plus vite, d'avoir l'information contextuelle, de pouvoir vérifier s'il faut une prescription automatiquement, s'il y a des effets secondaires cumulatifs entre ce qu'ils prescrivent, etc. Et ça va faire gagner du temps médical et ça va permettre de repasser du temps à ce qui est le plus important, c'est l'écoute, l'empathie dans l'échange. Et tous les médecins veulent ça. Ils veulent pouvoir être très bons, ils veulent pouvoir être là pour leurs patients, ils veulent pouvoir continuer à se spécialiser. Et la technologie peut aider à la fois du côté du citoyen et du professionnel de santé.
En fait, il y a plusieurs trucs sur lesquels j'aimerais revenir. Parce que tu parlais tout à l'heure des maladies chroniques. Ça m'intéresse vraiment d'expliquer comment en fait, on est passé de maladies... qui sont des, enfin, je sais pas comment dire, mais des one stop, quoi. Si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire des maladies, bon, tu l'as une fois, et puis voilà, au passage de maladies chroniques. Et puis, après, on va s'intéresser aux données, à la sécurisation des données, à la vie privée, etc., etc. Il y a aussi cette notion qui me semble hyper intéressante. Moi, j'ai écrit un post, entre guillemets, sur LinkedIn où j'expliquais, en fait, j'aime pas trop parler de soft skills parce que pour moi, les soft skills sont plutôt des human skills, donc des qualités d'humain. Et puis, ce qu'on appelle les hard skills, pour moi, ça devient plutôt des artificial intelligence skills, c'est en fait des compétences que peuvent faire une machine. Donc, du coup, c'est ça que tu es en train de décrire. Et en même temps, j'ai l'impression que les médecins sont pas forcément très bien formés aux human skills. C'est-à-dire qu'en fait, dans les X années très longues d'études de médecine, en fait, on ne les forme pas vraiment à accompagner les patients humainement. Alors, attends, on va revenir, parce que là, je t'ai parlé de beaucoup de choses différentes. D'abord, peut-être, parler de ce principe de maladie chronique. Je pense que ce n'est pas très clair pour tout le monde que la maladie... Alors, je ne sais pas si c'est la maladie qui évolue ou si c'est notre compréhension de la maladie qui évolue.
Je pense qu'il y a deux éléments. On vit plus longtemps en meilleure santé, ce qui en fait génère de la maladie chronique. Il y a aussi juste des évolutions comportementales autour de la nutrition, du sport, de la sédentarité qui font que certaines maladies chroniques se développent. Et encore une fois, en France, par exemple, sur le diabète, on est infiniment meilleur que les États-Unis parce que on a maintenu plus d'activité et sûrement une nourriture plus équilibrée, mais on voit quand même une progression nette. Donc, c'est des questions qui vont se poser. On reparlait de santé mentale. Il y a des corrélations hyper fortes entre maladie chronique et santé mentale. C'est-à-dire que si tu es sous maladie chronique, tes risques en fait, de te retrouver en détresse psychologique ou plus sont fortement accrus. Et en fait, si tu as des problèmes de santé mentale, le risque de tomber malade et de te retrouver en affection de longue durée est aussi assez important. Donc, en fait, c'est un cumul de plein de choses. Vieillissement de la population, comportement, environnement, dont on ne connaît pas d'ailleurs toutes les raisons et toutes les sources. Et il faudra continuer à analyser ça en tant que société. Mais on voit juste une progression nette et donc une nécessité d'essayer de traiter ça. Et encore une fois, ce qui est très dur mais très important, c'est tu as le point de vue macro au niveau de société où tu vois ça et tu dis il faut corriger ces tendances.
Bien sûr.
Mais après, tu as le point de vue micro et individu où tu ne veux pas forcer des choses. Et donc, pour ne pas forcer des choses, c'est comment tu crées des expériences, des produits, des innovations qui font que, un, les gens ont envie de le faire, c'est facile pour eux, ils sont en confiance et en sécurité. Et il ne faut jamais confondre les deux. Pour que le macro marche, il faut en fait faire la somme de plein de choses au niveau des individus qui sont des produits et des usages qu'ils ont envie de faire et d'utiliser.
Et donc, pour revenir sur la vie privée, parce que c'est quand même... Enfin, en fait, en France, on est très différent des US, très clairement. Les données de santé, c'est quelque chose c'est extrêmement sensible. On a l'habitude de donner nos données à l'État et aux banques, grosso modo. Est-ce que c'est pas à l'État, et est-ce que c'est même possible que ce soit à l'État d'ailleurs, parce que vu la situation et les complexités administratives, etc., qui révolutionne le système de santé, ou est-ce que ça peut venir par des acteurs privés? Bien sûr, comme Alan ou d'autres. Est-ce que ça, c'est pas mettre le verre dans le fruit, entre guillemets, je te dis ça, alors voilà, c'est intéressant en fait de se poser la question parce que c'est tellement sensible.
Je suis d'accord sur le fait que c'est très sensible. Je pense que l'État a un vrai rôle à jouer en tant qu'État plateforme et c'est ce qu'il est en train de faire avec l'espace de santé numérique. Et le travail de Laura Letourneau, Dominique Ponce, etc., où ils créent des fondations nécessaires. Je pense que l'innovation viendra du privé, parce que les systèmes monolithiques ne sont pas très bons pour innover, parce que l'innovation demande la compétition, demande la créativité, demande d'attirer les talents, etc. Comment on peut faire ? C'est mettre des règles très claires. Et en France, on a déjà des règles très claires. C'est-à-dire que si une assurance santé... ils n'ont aucun droit d'utiliser l'historique médical pour faire du prix individuel. Ils n'ont pas le droit de refuser des gens pour leur historique médical, etc. Donc, tu vois, ces normes sont très claires. Et moi, je suis plutôt dans une vision où il faut être extrêmement punitif des gens qui utilisent pas mal la donnée. Mais honnêtement, tu as assez peu... Dans ce contexte, tu vois, si tu prends... J'avais cette discussion hier, c'était assez intéressant... Dans le monde du trading et de la finance, si tu arrives à choper une information avant les autres, tu peux gagner tout de suite 40 millions d'euros, je dis n'importe quoi, parce que tu as eu cette information, que tu l'aies eue de manière légale ou pas. Dans l'assurance santé et données de santé, il y a un peu une peur irrationnelle, mais honnêtement, qu'est-ce que tu vas faire? Nous, on est à la fois une assurance santé, on a beaucoup de services de santé, on essaie d'être un vrai partenaire, mais on n'a pas le droit de pricer au niveau individuel. Même si on essayait... De toute façon, les résultats se joueraient sur des 5 à 10 ans, donc il n'y a pas vraiment de reward à le voir. Et si ça nous faisait nous dire « Ah, en fait, cette personne est plus à risque, donc on va faire une couverture plus chère », en fait, la personne prendrait une autre assurance et on ne l'aurait pas. Donc, en fait, ouais. Tu vois, les raisons de le faire sont plutôt très, très faibles, voire quasi nulles. En fait, je n'arrive pas à réfléchir pourquoi tu le ferais. Et deux, je pense que tu peux créer des règles, et ça, c'est le rôle de l'État, d'être extrêmement punitif sur les gens qui tricheraient, même si je pense que la probabilité est très faible. Le seul risque, c'est si tu n'arrives pas à avoir ce débat de manière intelligible et non ah, c'est la donnée de santé, donc on arrête de parler, on dit juste que c'est... En fait, tu tues l'innovation, et je pense qu'il faut plutôt poser les questions en termes de trade-off, c'est-à-dire est-ce que tu serais prêt à partager ces données-là avec ce tiers que tu juges de confiance ou pas, parce que ça a la probabilité de réduire tes chances de cancer du sein de 30%. Et si tu poses la question comme ça, en fait, là, tu donnes aux citoyens l'opportunité de faire un choix. Et moi, ce que je pense important, c'est arrêter de penser pour les gens et plutôt donner le choix aux citoyens, encore une fois, avec du consentement préalable, de la clarté de l'information sur quels sont les trade-offs que moi, je veux faire en tant que citoyen.
Et on sait que, par exemple, des acteurs comme Google, ils vont sur la santé et ils pourront faire ces promesses. Et ils seront sans doute, parce que c'est des machines marketing, ils sont sans doute très forts à même, je pense, avoir des résultats. Par contre, il y a un petit problème de souveraineté des données, non ? Enfin...
Sûrement. Et encore une fois, là, c'est là où la loi peut jouer, c'est-à-dire être ultra punitif, mettre des énormes amendes, interdire d'opérer sur le territoire si tu dépasses certaines règles. Enfin, tu vois, tu peux faire plein de choses avec la loi. J'espère, et je pense que c'est notre enjeu, qu'il y ait plutôt des leaders européens qui se créent dans la santé, qui deviennent des tiers de confiance. Et pour ça, je pense qu'il faut créer des normes aussi d'entreprises où il y a énormément de transparence. Et nous, c'est quelque chose qu'on essaie de pousser avec Alan, c'est la transparence radicale en interne et en externe sur nos chiffres, nos usages, sur comment on opère. Parce que je pense que c'est la seule manière de créer de la confiance dans la santé, et que la santé est en effet un enjeu de confiance. Mais encore une fois, c'est si on s'interdit juste d'en parler et parce qu'on ne fait pas, bah, en effet, c'est des GAFA américaines ou chinoises qui vont développer la techno. Et à un moment, on sera « Ah, en fait, cette techno est quand même assez utile et elle est importante et on ne l'a pas développée, comme ça nous est arrivé 50 fois dans les 60 dernières années. » Et on va encore se retrouver rond comme cochon, comme on dit. Et ça, j'ai vraiment pas envie que ça nous arrive sur la santé.
L'autre point que j'ai touché et qui me semble important, c'est je crois qu'il y a un des problèmes de santé. Bon, clairement, il y a un problème de charge pour les personnels de santé, que ce soit des infirmières, infirmiers, médecins, chirurgiens, etc. etc. Mais il y a aussi un manque de formation à l'accompagnement émotionnel, humain, de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont proches des patients. On ne peut pas dire l'inverse, on ne peut pas être plus proche. Et en même temps, quand il s'agit d'annoncer les choses... Ben, elles ont déjà cette contrainte de temps, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas vraiment le temps d'accompagner et elles n'ont pas forcément la formation pour le faire. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut réformer ?
Clairement, à mon sens, encore une fois, c'est dur avec les généralités parce que tu as des médecins qui sont extraordinaires, qui le font très bien,
évidemment.
Etc. Mais dans les faits, je pense qu'il y a deux grands enjeux sur la formation des médecins et des professionnels de santé, qui est l'utilisation des technologies. Donc, c'est vraiment les aider à devenir des leaders de la création des technologies de demain. Donc, il faut qu'ils comprennent les notions de machine learning, d'intelligence artificielle, de qu'est-ce que c'est que le software. Et qu'en fait, on est de plus en plus de médecins entrepreneurs ou de médecins qui travaillent avec des entrepreneurs technologiques pour créer ça ensemble, ou médecins ou professionnels de santé au sens large. Et ça, je pense que c'est vraiment un pan qui est très important. Et le deuxième pan, en effet, c'est arriver à valoriser... et entraîner, parce que c'est un vrai exercice, l'empathie dans des milieux contextuels. Et honnêtement, il n'y a rien de plus dur que le métier de médecin. Tu dois annoncer souvent des informations qui sont très désagréables à entendre à des gens qui sont dans un contexte de stress hyper fort, quand toi aussi, en fait, tu ne dois pas le faire qu'une fois, mais tu dois le faire peut-être 10 fois dans la journée. Et honnêtement, c'est juste un métier extraordinairement difficile. Donc si... un, on peut former mieux, et deux, on peut donner des outils pour qu'ils aient plus de temps pour le faire bien, je pense que tout le monde sera très très content des deux côtés. Maintenant, il faut accompagner cette transition, ça va prendre du temps, ça va gérer sûrement par génération de médecins, etc. Mais il faut commencer maintenant pour pas que ce soit trop tard aussi.
Une autre question, bon, qui est, on peut pas passer à côté en fait, vu la situation qu'il y a dans les EHPAD. Est-ce que tu vois d'envisager des boîtes privées avec des capitaux et avec tout ce que ça peut supposer ou en tout cas entraîner comme dérive? Et je pense que les EHPAD, c'est un très bon exemple où en fait, on traite. C'est d'autant plus important que la population vieillit. Alors en France, c'est un chouïa moins vrai que dans d'autres pays européens, mais ça vieillit quand même. Est-ce qu'il n'y a pas, enfin, en fait, la question, parce qu'en fait, naturellement, tu te dis, ah bah oui, effectivement, l'État, voilà, ils sont trop lents, c'est trop difficile à réformer, donc il faut des acteurs privés qui viennent, etc., etc. Et t'as raison, je pense que c'est indispensable que ce soit des acteurs européens, parce que de toute façon, on le sait, et voilà, enfin, Google est très positionné, les acteurs en chinois, enfin, je connais pas les noms de ceux qui sont positionnés, mais clairement, ils se positionnent aussi, parce que, voilà, c'est évident que c'est le gros sujet, voilà, dans les sociétés occidentales. En tout cas, et même en Chine, en fait, hein, la population vieillit maintenant. Donc voilà, c'est évident. Mais comment on évite des situations comme Orpea, quand ce sont des sociétés privées qui gèrent ce genre de choses avec une logique capitalistique purement financière derrière?
Je pense que c'est toujours une question. On en revient à la nécessité de transparence. C'est-à-dire que le cas Orpea est terrible d'un point de vue humain et je connais pas tous les détails de exactement ce qui s'est passé entre donc j'essaie de prendre un peu de recul, mais de ce que t'en lis, en tout cas, ça a l'air d'être assez complexe et terrible d'un point de vue humain. Mais c'est aussi la force de, si le modèle était la transparence et l'accès là au journalisme qui permet de sortir ça. Et donc si ces boîtes privées sont auditées de manière régulière, transparente, beaucoup plus transparente, et ça c'est vraiment un truc sur lequel on milite énormément chez Alan, en fait tu crées cette boucle de feedback où une fois, si les gens savaient que leurs parents seraient traités comme ça chez un des acteurs, peut-être qu'ils les auraient pas mis là. Et en fait, moi je crois vraiment plutôt à cette notion de transparence qui est assez importante. Après, et je suis pas en train de défendre Orpea, mais et c'est pas seulement une question de capitalisme, c'est les gens sont sûrement prêts à payer un certain tarif et veulent une certaine qualité de service, et je pense que l'équation est pas nécessairement si facile à gérer, que ce soit un acteur privé ou l'État, hein, parce que l'État, ils ont aussi des budgets, des choses à faire gérer, et encore une fois, il n'y a pas argent illimité dans l'État non plus, donc il faut quand même prendre conscience de ça. Mais je pense que la seule manière de résoudre, c'est de pousser à beaucoup plus de transparence des acteurs, pousser à beaucoup plus d'audits qui permettent de faire ça, et du coup aider à accompagner ces transitions quand il y a un acteur qui déborde et que ce soit vu très très vite. Le deuxième point sur le grand âge, c'est comment la technologie peut aider à rester plus longtemps à la maison aussi. Mmh. Et comment tu crées des outils pour que les gens puissent rester plus longtemps à la maison et un meilleur suivi qui aiderait aussi à résoudre le problème, à désengorger. Donc, tu vois, les solutions, elles sont multiples. Je pense que souvent, ce que l'être humain fait, c'est quand il y a un problème, ils vont créer une règle pour tout le système au lieu juste de se concentrer sur le problème. Et ça, c'est un truc de la politique parce qu'il faut réagir, il faut montrer qu'on fait des choses. Et ce que j'essaierais de comprendre plutôt, c'est comment on met plus de transparence dans le système pour que ces problèmes soient vus plus tôt. S'il y en a, ces dérives soient vues plus tôt et on puisse les traiter à la fois par le rôle de l'État qui doit punir la dérive et par le rôle du marché qui fait que, dans les faits, une fois que cette information est transparente, plus personne va mettre ses proches dans un centre où il y a ce type de pratique. Et du coup, c'est vraiment la transparence radicale, je pense, qui nous aidera à gagner sur ces marchés-là.
Alors, sans rentrer dans une discussion trop technique, parce que c'est pas l'objectif ici, mais ça me fait beaucoup penser à la décentralisation et au Web3, tout ce que tu racontes. C'est-à-dire, en fait, le principe même du Web3, c'est cette forme de transparence, c'est la décentralisation des informations, donc du coup une forme de sécurisation des données, et puis c'est aussi une forme d'assurance que oui, il y aura de la transparence dans l'information, tout simplement.
Je pense que c'est hyper important. Et aujourd'hui, enfin, c'est un des gros enjeux que je pousse dans le bouquin, mais c'est une des grandes inégalités en France aujourd'hui, c'est l'accès à l'information en santé sur la qualité des soins, le coût des procédures. On est incapable de prendre une décision éduquée. Si t'as pas accès à quelqu'un qui est un insider du système et qui va te dire ah c'est en fait c'est ce spécialiste que tu dois aller voir.
Exactement.
Et ça c'est encore une fois quelque chose je pense qu'il faut arriver à combattre pour nous et pour nous en tant que société en France et en Europe qui est beaucoup plus de transparence sur plein de paramètres et de métriques pour mesurer qualité du soin, empathie, rapidité de service, enfin, etc. Ce que les gens attendent, quoi.
Ouais, on entend, enfin, moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires d'effectivement de maltraitance de la part des médecins. Alors, bien sûr, t'entends beaucoup d'histoires autour des gynécologues parce que c'est un sujet qui est très sensible et parfois ça se passe mal. Et en fait, aujourd'hui en France, t'as pas le droit de noter les médecins, t'as pas un truc de type glace d'or ou je sais pas, note ton médecin.
Mais dans les faits, tous les médecins sont notés sur Google aujourd'hui. Genre, tu tapes le nom d'un médecin, les gens leur mettent des étoiles et mettent des notes. Donc, je pense qu'il y a un intérêt, même pour le corps médical, d'encadrer ça un peu plus avant qu'ils se retrouvent complètement dépassés.
Ouais, complètement. C'est exactement vrai. Une autre question que je me pose dans l'évolution du système médical, c'est le rôle des infirmières et des personnels de santé, mais qui ne sont pas forcément des médecins, qui ont quand même des études assez avancées. C'est-à-dire qu'une infirmière, elle a quand même fait 3 ans d'études. Elle est loin d'être cruche. Enfin, une infirmière et un infirmier, c'est toutes ces personnes-là, elles peuvent aider. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elles ont des rôles qui sont subalternes. Alors, c'est aussi des questions de salaire. J'imagine qu'il y a une sorte d'équilibre qui se fait à ce niveau-là. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas repenser aussi la structuration des équipes, quelque part ?
Je pense que c'est un vrai enjeu. Il y a des discussions en ce moment, surtout dans les déserts médicaux, pour créer des notions de référents, où ça pourrait être des infirmiers ou des infirmières, des pharmaciens qui deviennent des référents. Nous, on croit vraiment, la notion de médecin traitant est assez intéressante, mais elle est très ancrée dans le passé, où tu crées vraiment une relation avec un médecin, etc. Nous, ce qu'on croit à l'aune de la technologie, c'est la création d'une équipe médicale traitante. Donc, c'est une plateforme digitale où tu vas avoir une équipe médicale qui aura ton information centralisée si tu veux leur donner accès et qui sera composée d'infirmiers ou d'infirmières, de généralistes, peut-être d'un spécialiste selon ton âge, si tu es d'une sage-femme, enfin tu vois, selon tes problématiques. Et avoir cette équipe médicale traitante, digitalisée, qui t'aide et qui est ton premier rideau avec le système de santé et après qui peut te rediriger dans le système, ça je pense que ce sera une énorme innovation qui fera gagner beaucoup de temps, qui rendra la vie beaucoup plus facile aux Français et qui revalorisera en fait le temps des médecins et des généralistes. Moi, je crois vraiment très fortement que dans cette rupture technologique, elle va pousser. Bon, il va continuer à avoir l'hyperspécialisation, mais presque dans un angle technologique. Le radiologue de demain, il ne sera pas le meilleur radiologue parce qu'il verra le mieux les radios, il sera faire l'opération. C'est parce qu'il sera le mieux utiliser les softwares avec du machine learning qui l'aideront à reconnaître. Et en revanche, je pense qu'il va y avoir une revalorisation très forte du rôle de généraliste qui va avoir cette notion un peu de coach de vie via cette équipe médicale. Et je pense que ça, c'est un grand enjeu. Un généraliste avec des très bons outils technologiques, demain, ça va être... il va avoir plein de super pouvoirs pour accompagner les citoyens et les patients. Et ça, c'est assez excitant. Et du coup, cette notion d'équipe médicale digitalisée, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'il y a aussi un rideau d'intelligence artificielle qui aide à trier les questions, à guider, à router. Je pense que c'est vers ça que le système doit aller.
Et alors justement, tu parlais des déserts médicaux, parce qu'on a beau jeu de parler de santé quand on est à Paris et encore que...
L'Île-de-France, c'est un des plus gros déserts médicaux. Il y en a d'autres, mais en fait... En Seine-Saint-Denis, c'est une catastrophe. C'est quasiment 90% de la population qui est en désert médical. Et dans Paris, tu as quand même des temps d'attente qui sont hyper longs. Mais bon, hors de Paris, c'est encore pire.
Comment on arrive dans cette situation ? Est-ce que c'est parce que les gens font plus d'études ? Comment on arrive dans cette situation de déserts médicaux ? Alors moi, c'est vrai que je pensais plutôt à des personnes qui sont hors dehors des grandes agglomérations et pas que Paris, parce que j'avais pas envisagé que la région parisienne soit un désert médical, mais effectivement, comme ma mère à Lévis, je vois bien à quel point ça peut être le cas. Effectivement, enfin, on voit les médecins qui s'en vont, en fait. Et je sais pas s'il y en a moins ou si je sais pas où ils vont, en fait.
Non, c'est une question d'offre et de demande. Donc, sur l'offre, il va y avoir une énorme vague de départ à la retraite de médecins un peu partout en France sur les 5-10 prochaines années. Donc, l'offre va continuer à alimenter. Il y a eu des numerus clausus pendant assez longtemps qui ont limité le nombre de médecins et la formation, et donc qui ont été augmentés récemment, mais il va y avoir un trou d'air, je pense, là, pendant au moins une bonne dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et l'augmentation de la demande. En plus, comme on le disait, vieillissement de la population, plus de maladies chroniques, plus de besoins. Et du coup, quand tu mets ces deux-là en parallèle, c'est un effet ciseau qui fait ça. Et la notion qui va être très dure, c'est forcer des gens à aller s'installer quelque part. C'est très compliqué dans un état de liberté et de droit. Donc, il va vraiment falloir se poser la question de comment on crée, encore une fois, des outils et des plateformes pour que une grande partie puisse être gérée à distance. Et en effet, il faut du local, il faut du physique. Enfin, la santé, c'est un vrai enjeu physique. Mais tu vois, si tu peux déjà sortir une partie l'échange de la notion de physicalité qu'elle peut être digitale, ça réglera une partie du problème. Et après, pour tout le reste, bah, il va falloir essayer de trouver les bonnes incentives pour que des gens aient envie de s'installer à la campagne. Alors, on voit avec 2 ans de pandémie qu'il y a plus de personnes qui veulent quitter les grandes agglomérations et que ça se distribue un peu plus. Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais en tout cas, c'est un véritable enjeu de société. Ouais.
Et alors, la question, parce qu'en fait, ce dont tu parles depuis tout à l'heure, c'est comment les médecins vont utiliser des outils technologiques, etc., etc. Le problème, c'est que ça suppose une évolution très forte de leur éducation. Et ça, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des études qui sont extrêmement difficiles. Et puis bon, bah, une fois qu'ils sont en poste, en fait, ils n'ont pas été formés. Mais si on doit les former, du coup, ça va prendre du temps. Alors du coup, il y a quand même cet enchaînement de... Et on voit bien sur le système éducatif français, on voit bien que le système, il fonctionne plus très bien. Il y a plein de statistiques qui sont là pour le décrire. On voit le ministre Jean-Michel Blanquer qui a essayé de faire 3-4 trucs, mais enfin, ça n'a pas changé de manière fondamentale la donne, parce qu'il y a plein de résistances aussi. Comment tu fais pour faire évoluer la formation des médecins pour... même si ça leur facilite la vie, l'idée c'est quand même de leur faciliter la vie, de rendre le système plus fluide, meilleur, etc. Il y aura des résistances naturellement, en fait.
Il y en aura, mais moi je suis assez impressionné et étonné par le nombre de médecins qui ont faim, qui ont envie de devenir entrepreneurs, qui font des doubles cursus... Il y en a vraiment de plus en plus. Et nous, avec Alan, on a la chance d'être en contact avec quelques-uns. Il y en a plein qui me contactent sur les réseaux sociaux aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a toute une génération qui a très envie de le faire. Et ce qu'on s'aperçoit souvent, c'est toute la nouvelle génération a très envie de le faire. Tous les médecins qui sont en fin de carrière sont aussi très intéressés. Le plus dur, c'est pour ceux qui ont fait tout l'investissement de se créer une patientèle, un cabinet ou une carrière hospitalière et qui doivent tout chambouler à mi-chemin. Pour eux, ce sera très, très dur, en effet. Et c'est pour ça qu'il faut faire la transition progressivement. Mais je pense que tu demandes à tous les médecins qui sont... Enfin, tous les potentiels médecins qui sont aujourd'hui en école de médecine, encore une fois, peut-être pas tous si tu généralises, mais qui ont grandi avec Internet en natif, qui ont grandi en utilisant des smartphones, etc. Je pense que si tu leur demandes « Est-ce que tu as envie de créer, de concevoir des nouvelles pratiques, d'être entrepreneur ?» Il y en a plein qui ont envie de le l'être. Et donc, il faut juste adapter les cursus pour s'adapter à ces envies-là. Et je dis juste adapter les cursus, c'est un travail considérable parce que la complexité, encore une fois, de la santé et de la médecine, qui est à la croisée de la science et de l'art, parce que c'est à la fois des procédures scientifiques pour apprendre des choses et à la fois un art parce qu'on n'a jamais la donnée pure et parfaite, demande un travail d'expertise hallucinant. Donc, je ne sais pas dans les détails comment rénover ce cursus, mais créer en tout cas plus de porosité entre le monde entrepreneurial, le monde de la data, le monde des technologies et les cursus médicaux, ça, je pense que ce serait extraordinaire.
Ouais, non, mais effectivement, ça me semble indispensable. Ça me semble être la voie logique. C'est évident que ça va aller dans ce sens-là, sans tomber dans le piège de Doctissimo où les gens ils font de l'automédication.
Mais c'est le grand risque de société. Hein. C'est que si on résout pas les problèmes, on va avoir que de l'automédication, plus aucune science, et une médecine à deux vitesses, quoi. Et ça, je pense que ce serait vraiment catastrophique.
Et c'est déjà un peu le cas. Il y a aussi ce développement... Alors, en fait, il y a plein de trucs dans ce que tu as dit qui étaient la prévention, comment on arrive à prévenir. De plus en plus, moi, je vois venir des intelligences artificielles, où il y a des projets qui permettent de détecter les cancers 3 à 4 ans avant, parce qu'en fait, maintenant, la technologie permet de le faire. Ce qui est colossal, parce que ça pourrait limiter de manière assez fondamentale le nombre de patients et puis de décès naturellement et de tragédies dans les familles en réalité. Donc ça, c'est la technologie. Après, je me dis, encore une fois, on a déjà abordé le point, mais il y a tellement de défiance. Tu vois, par exemple, c'était vachement intéressant ce qui s'est passé, tu vois, dans l'épisode Covid, si on peut parler comme ça, de défiance anti-vax. J'ai pas confiance dans l'État, j'ai pas confiance dans les laboratoires qui essayent de prendre de la thune. De toute façon, tout ce qui les intéresse, c'est de faire de la thune, etc., etc., etc. Enfin, je pense que tu as bien entendu ce genre de discours. Comment on peut redonner confiance aussi aux Français là-dessus, enfin aux Français, aux gens de manière générale?
Je pense qu'il y a deux enjeux. C'est un, d'abord, écouter, c'est-à-dire ne pas, parce que des personnes ont des idées différentes que nous, penser qu'ils sont bêtes, etc. Donc, c'est essayer de comprendre comment ils sont arrivés là. Et le deuxième élément dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est la transparence. C'est-à-dire, tu n'arriveras à créer de la confiance que s'il y a beaucoup de transparence et que tu crées un terrain d'écoute qui amène... un peu l'un vers l'autre. Et c'est assez bateau, mais je pense que c'est la seule manière d'y arriver. Parce que si tu polarises plus, tu crées de la friction et ça ne fonctionne pas. Et si tu n'es pas radicalement transparent, c'est impossible de faire confiance. Et il sera très possible que malgré la transparence radicale, des gens disent toujours « Oui, mais c'est le monde privé, c'est des méchants, etc. » Moi, je crois vraiment... au bouche à oreille et ça prendra du temps, mais si tu as des produits qui sont meilleurs, des gens qui... une communication transparente, que tu fais les choses plutôt bien, je pense qu'au fur et à mesure du temps, ça se répand et ça gagne.
Donc toi, tu penses que sur le Covid, par exemple, l'État français n'a pas été transparent. Ils n'ont pas été transparents au début sur l'histoire des masques, ça
mais,
c'est sûr.
Mais en fait, je pense que c'est le point de... la confiance met des années à se gagner et ça se perd en 5 minutes. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé sur l'histoire des masques et qui a créé... Et je pense que les vaccins sont un sujet un peu très touchy, parce que c'est une injection, ça fait un peu peur, etc. Et ça s'est... et du coup, il y a cette confiance, ça s'est un peu perdu et a été difficile à reconstruire. Il y a une peur de, comme il y a une peur du privé, il y a aussi une peur de l'État tout puissant qui existe, qui ne disparaîtra jamais. Hein. La question, c'est comment t'amènes assez de monde et l'infinie majorité à un peu plus de confiance.
J'ai fait un épisode sur la démocratie. Avec le directeur des études de Fondapol. Et ce qu'il expliquait, et qui lui faisait assez peur, c'est qu'avant, on avait un clivage gauche-droite, et maintenant, on a un clivage candidat démocrate, plus ou moins, versus parti de contestation. Est-ce que ça... Enfin, donc, et en fait, en France, par exemple, on est à 50-50, hein, en gros... on verra ce que vont donner les élections, donc on enregistre pour ceux qui savent, pour ceux qui écoutent avant les élections présidentielles, juste avant. On verra bien ce que donnent les élections, mais c'est pas complètement impossible que Marine Le Pen passe ou quelqu'un d'autre. C'est pas si évident que ce sera Macron, parce qu'il y a effectivement, après, on est 47-53, mais en fait avec 3% de marge d'erreur, donc au final, on est vraiment à 50-50. Est-ce que ça n'a pas des impacts aussi sur la manière dont le système de santé va évoluer? C'est-à-dire, en fait, on se retrouve dans des... Tu parlais tout à l'heure, et je pense que c'est important, dans la binarisation des idées. Et du coup, des gens qui sont, entre guillemets, progressistes, et puis des gens qui sont... anti-système, si tant est que ça veut dire quelque chose.
C'est vraiment un risque et je pense qu'il y a j'espère plutôt qu'il y aura de la rationalité par rapport à nos systèmes et par rapport aux chiffres et par rapport à ce qui se passe pour les médecins, etc. Quel que soit le résultat. Après, en effet, moi, je suis plutôt du camp de la démocratie et du progrès.
Je suis très surpris.
Et j'espère qu'il y aura des notions de progrès, mais encore une fois, je pense que c'est inéluctable. Et le pire qui puisse arriver, c'est qu'on coupe le progrès, qu'on continue à essayer de faire les mêmes choses un peu plus mal, etc. Ça ne rendra que le progrès plus nécessaire un peu plus tard. Donc, après, moi, je suis un éternel optimiste. Je pense qu'il faut être ça pour être un entrepreneur. Donc, qu'il y ait quel que soit ce qui se passe, il y aura sûrement des possibilités de créer un meilleur système de santé. Il ne faudra pas s'arrêter au clivage politique et il faudra essayer de juste construire pour les citoyens finaux. Et oui, si on arrive dans un système où la science est complètement négligée, comme ça a pu être ressenti aux États-Unis dans le mandat précédent, c'est effrayant parce que ça fait pas prendre des bonnes décisions au niveau de société, ça peut coûter la vie à beaucoup de gens. J'ai l'espoir qu'en France, on reste plus mesuré en moyenne et qu'on arrive, quoi qu'il arrive, à avoir des débats éduqués, mais mon espoir, c'est qu'on continue à investir dans le progrès et l'innovation.
Ok, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
J'aimerais bien, du coup, ouvrir la porte à plus de débats et de discussions sur comment on peut faire bien travailler la puissance publique et la puissance privée ensemble au service des citoyens. Et ce qui est vraiment important, c'est au service des citoyens dans notre santé. Et ce à quoi j'aimerais claquer la porte, c'est aux positions dogmatiques qui empêchent en fait ce débat-là et qui font qu'on va plus dans la profondeur des choses, mais on s'arrête à ce qui fait les grosses lignes, donc qui peuvent être sur la donnée de santé, sur plein de choses. Et ça, je pense que c'est très dangereux pour une société, parce que ces positions dogmatiques amènent à l'obscurantisme. Et voilà. Donc oui, moi, ce que je veux, c'est juste du débat sain. Je pense pas du tout qu'on ait nous toutes les réponses chez Alan. On essaie d'apporter une vision pour un débat, pour faire évoluer la santé pour tous. J'espère qu'on contribue positivement à ce débat et qu'on construit du produit qui aide à la prévention et qui est vraiment un partenaire de nos membres et des entreprises avec qui on bosse. Mais oui, il faut faire ça avec beaucoup d'humilité. Ouais.
Et d'ailleurs, je te pose encore une question parce que ça m'intéresse, mais est-ce que l'enjeu, c'est pas d'aller sur le terrain, on voit que finalement, les politiques, ils vont voir les gens dans les marchés, etc., etc., mais ils sont un peu éloignés, finalement. Il y a une vraie, en fait, on parle de déconnexion, mais il y a une vraie déconnexion. Est-ce que ça, c'est pas aussi un des enjeux, c'est d'aller voir les gens, de leur parler? T'en as parlé beaucoup, mais...
Je pense que c'est très dur d'être connecté à tout le monde tout le temps. Donc, c'est un exercice qui est vraiment, à l'échelle d'une nation, quasiment impossible. Mais en effet, passer du temps, nous, on parle de recherche utilisateur. Nous, tout le monde chez Alan fait du service client au moins une fois par mois pour essayer de comprendre et voir. Ça t'aide à comprendre les problèmes et voir ce que tu dois résoudre, ça, c'est sûr. Et je pense que c'est très important de garder cette connexion à la réalité des gens et aux usages. Mais encore une fois, il y a une infinité de cas, donc il faut à la fois capable d'avoir de la data, des dashboards, des outils de suivi qui te permettent de voir des agrégats, et après aller parler aux gens régulièrement de manière qualitative pour mettre des mots et des sentiments et des notions et essayer de faire correspondre les deux. Et en fait, t'apprends énormément des deux choses. Et oui, j'espère que ça, que ce soit au niveau politique, au niveau des entreprises, ce soit quelque chose qui se développe de plus en plus. Ouais.
Parfait. Merci beaucoup.
Merci Greg.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à